Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé, que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi le revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, d'un mis au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire, qui sera cette semaine sur le magazine culturel, suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission de la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Kadin apprécie le gouvernement de socialiser activement l'amnistie fiscale. L'armée nationale indonésienne, TNI et le militaire malais font l'exercice conjoint. Environ 2500 participants assisteront au Forum économique islamique mondial à Jakarta. L'Organisation centrale de l'étudiant indonésien en Égypte établit une coopération étroite avec les organisations socio-culturelles en Égypte. Le Conseil de l'art de Jakarta va construire Jakarta comme une ville de premier plan de l'art dans le monde. Voici le journal complet. La Chambre de commerce et d'industrie, CADIN, de l'Indonésie a salué les efforts du gouvernement pour socialiser le programme d'amnistie fiscale, car il devient le fondement du financement du développement et d'améliorer le bien-être des gens. Le président de CADIN de l'Indonésie, Rosan Perkasa Ruslani, a déclaré à Jakarta que la loi d'amnistie fiscale approuvée par le Parlement pour être adoptée le 28 juin 2016 et entre en vigueur le 1er juillet 2016 a été fortement faite, y compris par le vice-président Yusuf Kalla, en collaboration avec CADIN et l'Association des hommes d'affaires indonésiens. Il a dit que la socialisation du programme d'amnistie fiscale était une percée remarquable du gouvernement d'impliquer toutes les parties dans le développement national. Le programme d'amnistie fiscale est destiné à fournir de nouvelles nuances pour le développement, car les fonds qui ont été retirés et déclarés seront alloués pour encourager la croissance économique, renforcer le taux de change de rupiah et renforcer des fondamentaux économiques. L'armée nationale indonésienne TNI et le militaire malais tiennent des exercices militaires conjoints à Tanjung Gelang, Kuantan Pahang en Malaisie, du 21 juillet à 3 août 2016. Le communiqué de presse du Centre de l'information du quartier général de TNI a déclaré jeudi que cet exercice conjoint Malaisie-Indonésienne a le thème « Centre de coordination combinée ». Le chef de l'information publique du Centre de l'information de TNI, le colonel Siberlin, a déclaré que cet exercice conjoint visait à améliorer la coopération, à maintenir les relations militaires entre les deux pays et à améliorer les uns des autres afin de réaliser la stratégie de gestion des catastrophes dans la région frontalière. L'Indonésie accueillera le Forum économique mondial islamique à Jakarta Convention Center du 2 au 4 août 2016. Le Bambang Brojonegoro a déclaré que le Forum économique islamique mondial sera assisté par 2500 participants de 60 pays. Il a expliqué que les 2500 participants se composaient de diverses Element allant de jeunes entrepreneurs, des dirigeants communautaires, des universitaires aux chefs de gouvernement. Il a affirmé qu'il y a 4 chefs d'État qui ont dit qu'ils participeraient, à savoir le premier ministre de la Malaisie, le président de la République de Guinée, le premier ministre du Sri Lanka et le président du Tadjikistan. Le ministre a ajouté que l'événement sera ouvert par le président Joko Widodo et sera continué avec des discours de dirigeants d'autres pays. L'Association indonésienne des élèves et des étudiants en Égypte, PPMI, établit une relation étroite avec les organisations d'étudiants ou de jeunes en Égypte. Il a été annoncé par le secrétaire général Zulkarnain Haris Al-Maki à RRI au Caire vendredi. Selon Zulkarnain, l'une des organisations qui établit la coopération étroite avec PPMI en Égypte était Nadi Wafidine. Zulkarnain a expliqué, PPMI collabore avec Nadi Wafidine dans l'affichage et la promotion des arts et de la culture libanaise en Égypte. Selon Zulkarnain, les groupes de l'art et de la danse de PPMI participent fréquemment à des événements artistiques et culturels organisés par Nadi Wafidine en Égypte. Il a ajouté qu'en 2015, le groupe de danse des étudiants indonésiens en Égypte a remporté le premier prix dans l'événement artistique et culturel organisé par Nadi Wafidine. À ce moment, la performance du groupe artistique et culturel des étudiants indonésiens était meilleure que le groupe artistique et culturel des étudiants d'autres pays. Le Conseil de l'Arc de Jakarta a une vision pour faire Jakarta comme une ville de premier plan de l'art du monde. Le secrétaire général du Conseil de l'Arc de Jakarta, Danton Siombing, a affirmé récemment que Jakarta avait le potentiel d'être gérée et développée. Donc, les programmes conçus par le Conseil de l'Arc cette année seront améliorés sa qualité afin d'avoir un niveau international. Avec le potentiel existant, il est optimiste que Jakarta peut être une ville à la pointe dans le domaine de l'art. Danton Siombing a expliqué, en plus d'améliorer la qualité du programme, le Conseil de l'art de Jakarta repositionnerait également et revitaliserait les musées et les espaces publics à Jakarta. Cette année, le Conseil de l'art de Jakarta a également des programmes de formation visant à encourager les artistes à produire des œuvres d'art de qualité internationale. Le Conseil de l'Art de Jakarta a 6 comités se composant des comités de danse, de la littérature, de l'art, du cinéma, de la musique et du théâtre. Les programmes excellents cette année sont entre autres le Festival du théâtre de Jakarta, la musique expérimentale électronique, la classe de la critique littéraire, et des projets artistiques de femmes panoptiques.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le Centre de la promotion commerciale d'Indonésie, ou ITPC, et le Consul général de la République d'Indonésie à Chicago, les États-Unis, renforceront la promotion de l'Indonésie en organisant le Salon de Remarquables d'Indonésie 2016. Dans cette activité, on introduit des biens et services en provenance d'Indonésie, la diversité de la culture, l'histoire et l'économie de l'Indonésie au public américain, a déclaré le chef de ITPC de Chicago, M. Wijayanto, dans un communiqué de presse vendredi. Cette exposition, qui aura lieu pour la première fois le samedi 23 juillet à l'Hôtel Hilton Chicago, les États-Unis, selon M. Wijayanto, cette exposition est pour améliorer l'image de marque de l'Indonésie aux États-Unis. Il fera cette exposition comme l'événement annuel à Chicago. Nous faisons également fortement la promotion dans les médias sociaux. Si vous voulez voir plus d'informations, consultez Facebook et Instagram @remarkableindonesiafair ou site web www.remarkableindonesiafair.com, a ajouté M. Wijayanto. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, et des centaines d'étudiants ont planté 2500 plants d'arbres fruitiers dans la région de Siak, la province de Riau, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. La commémoration de la Journée mondiale de l'environnement 2016 à SIAC est la première fois organisée à l'extérieur du Palais d'État parce que d'habitude, elle a été organisée au Palais d'État et au Palais de Bogor. Le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2016 est « Luttons pour la vie sauvage ». SIAC est l'hôte de cette activité parce que cette région a beaucoup de problèmes environnementaux important et devient la préoccupation du gouvernement central, mais avec les mesures correctives et continue d'être encouragée et continuer à communiquer avec le gouvernement central, SIAC a réussi à améliorer la gouvernance environnementale pour le mieux. À cette fin, SIAC est plus prête à commencer et donner un bon exemple aux autres régions. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie en paix enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
De divers événements importants dans cette semaine sont recueillis dans une revue de presse et un résumé de divers quotidiens à Jakarta. Nous commençons avec le journal Kompas qui a écrit dans son éditorial au jeudi sur la peine de discrétion. Le président Joko Widodo a ordonné le procureur général et le chef de la police indonésienne de ne pas pénaliser les actes de l'administration gouvernementale. Le président a rappelé que les politiques prises par le gouvernement ont reçu un soutien des forces de l'ordre. Selon le journal Kompas, l'instruction du président était légitime. L'Indonésie est un pays de droit, pas l'état de pouvoir. La loi peut être appliquée s'il y a le pouvoir de l'appliquer. Au lieu de cela, le pouvoir sans loi va devenir l'anarchie. L'instruction du président de telle sorte que ceux qui appliquent la loi ne pénalisent pas les fonctionnaires qui prennent la discrétion ne signifie pas que les fonctionnaires pourraient prendre la politique librement au nom de la discrétion. Une décision de discrétion doit remplir les conditions stipulées dans la loi de l'administration d'État. La loi organise dans le cadre de ce que les fonctionnaires pourraient prendre des mesures discrétionnaires. La loi sur l'administration de l'État devrait être un guide. Comment est la relation entre la discrétion et la conviction? Selon le journal Kompas, si la loi de l'administration d'État est utilisée comme référence, il n'y aura pas de criminalisation sur la politique en condition que des mesures prises ne violent pas la loi. Ensuite, l'éditorial du Média Indonésia au mardi a écrit sur « Rejeter le système proportionnel fermé ». L'Indonésie est considérée le troisième plus grand pays démocratique du monde. Subissant le processus de démocratie après la réforme, a fait l'Indonésie un modèle pour les pays au monde. Même en 2014, 154 représentants de 30 pays sont devenus observateurs aux élections législatives en 2014. Le succès de l'exécution de l'élection présidentielle directe et les élections législatives appliquant le système proportionnel ouvert ordonne la démocratie indonésienne avancée. Les gens sont plénipotentiaires pour déterminer qui est le président dans les 100 prochaines années. Lors des élections législatives qui siégeront au Parlement, dépend entièrement du peuple. Cependant, il semble qu'il y a l'effort pour restaurer au système proportionnel fermé qui est clairement vu que les partis politiques plus pro-oligarchie. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires intérieures, dans le projet de révision de la loi numéro 8 de 2012, ou communément appelée la loi électorale, estime que le système proportionnel ouvert soulève un nombre de politiciens instantanés qui ont servi seulement à cause du pouvoir du capital et leur popularité. En outre, les partis politiques devraient aussi s'améliorer parce qu'ils sont autorisés à présenter des candidats sur le bulletin de vote. Les partis politiques sont également tenus de fournir une éducation politique au peuple. Selon le journal Média Indonesia, le processus démocratique par le système proportionnel ouvert assure qui ont gagné le plein soutien des personnes qui peuvent siéger à l'Assemblée législative. Le dernier, l'éditorial du journal Business Indonesia, au jeudi, sur « Faire attention à la métamorphose du terrorisme ». Santoso ou Abu Warda, l'un des plus recherchés par les forces de sécurité, était confirmé mort après que l'opération Tinombala, une combinaison de l'armée nationale d'Indonésie et la police indonésienne, ont échangé de coups de feu avec Mujahidin de l'Indonésie Est dans les montagnes du village Tambarana, Poso, Sulawesi Central. Bien que le résultat d'essai de l'ADN soit l'acide désoxyribonucléique n'est pas sorti, les tests d'empreintes digitales sur les victimes qui ont été tuées dans une fusillade lundi 18 juillet, selon le chef de la police nationale général Tito Carnavian, adaptent le terroriste Santoso. Selon le journal Business Indonesia, le rôle de la communauté est également un élément important dans la prévention des actes de terrorisme. Bien que l'intelligence et la police avaient une liste de personnes considérées comme liées au réseau terroriste, mais leur vie quotidienne ne peut pas évidemment être surveillée pendant 24 heures d'affilée. Le rapport de la communauté sur les choses suspectées pourrait être une mesure préventive dans la prévention du terrorisme. Selon le journal Business Indonesia, le terrorisme n'est pas seulement les affaires des forces de sécurité, mais les affaires de toute la nation. Chers amis, c'était la revue de presse.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 23 juillet 2001. Megawati Soekarnoputri est la première femme présidente indonésienne remplacée Abdurrahman Wahid. Dia Permata Megawati Soekarnoputri Setiawati, Miokonu par Megawati Soekarnoputri, qui est née à Yogyakarta le 23 janvier 1947, la 5e présidente de l'Indonésie. Megawati a servi depuis le 23 juillet 2001 à 20 octobre 2004. La ville de l'ancien du premier président de l'Indonésie, Sukarno, est aussi devenue la première femme présidente. Après que l'Assemblée consultative du peuple MPR a tenu une session extraordinaire en 2001, en réponse à un DCL du président Abdurrahman Wahid, Auguste Dur, qui a déçu l'Assemblée MPR-DPR et le Parti Golkar. Après la fin de son mandat, Megawati a réélu comme un candidat à la présidentielle, mais son rythme calé perdant Susilo Bambang Yudhoyono au second tour des élections présidentielles tenues directement au 20 septembre 2004. On change le 23 juillet 1952, renversement de la monarchie égyptienne. Dans la nuit, l'organisation clandestine, les officiers libres, s'emparent du pouvoir et renversent le roi Farouk. La République est proclamée et le général Mohamed Nekib est porté à la tête du pouvoir. L'Égypte vit une crise importante depuis la fin de la première guerre israélo-arabe, 1948 jusqu'en 1949. Le roi est tenu pour responsable de la défaite face à Israël, à sa soumission aux Britanniques installés sur le canal de Suez, choque les différents courants politiques du pays. Le mouvement progressiste qui l'avance est fondé par le jeune colonel Gamal Abdel Nasser, qui deviendra bientôt premier ministre adjoint. Le roi Farouk abdiquera le 26 juillet et Cécile sera à Monaco. Le général Mohamed Nekib sera alors choisi comme président de la République. On termine le 23 juillet 2005, série d'attentats meurtriers à Sharm el-Sheikh. Deux semaines après l'attaque des transports londoniens, un groupe terroriste se réclame Al-Qaïda fait sauter trois bombes à Sharm el-Sheikh. Déclenchée vers 1h du matin, l'attaque de la station balnéaire tuait 88 personnes après les attentats douloureux en 1997 et ceux de Taba en 2004. Le tourisme égyptien, une des principales ressources du pays, est à nouveau mis à mal. Chers auditeurs, c'était notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire ce soir. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la mise au point et en pour titre, l'Indonésie attend la décision de l'OMC sur différend sur les emballages de cigarettes. Le processus du différend sur les emballages de cigarettes entre l'Indonésie et l'Australie dans l'Organisation mondiale du commerce OMC est presque fini. L'OMC va immédiatement présenter la conclusion provisoire le juillet ou septembre cette année. Comme affirmé le directeur général des négociations commerciales internationales du ministère du Commerce, Iman Pambagio, lors d'une conférence de presse mercredi à Jakarta. Ce cas a débuté en mars 2014 lorsque l'Indonésie poursuit l'Australie qui applique les règles des plans paquets de cigarettes depuis 2012. L'Indonésie a estimé que les actions de l'Australie a enfreint les règles de l'OMC qui interdisent les membres d'appliquer les exigences particulières qui compliquent l'utilisation de la marque. En outre, les membres de l'OMC doivent veiller que les règles qu'ils appliquent ne restreignent pas le commerce. Pour l'Indonésie, la politique en Australie en ce qui concerne les plans paquets de cigarettes peut perturber les exportations de cigarettes d'Indonésie, qui est l'une des industries importantes. Au moins 6 millions de personnes sont impliquées dans l'industrie de cigarettes en Indonésie. Les exportations de cigarettes contribuent au moins 700 millions de dollars américains en revenus de l'État. Selon Iman, l'Indonésie n'a pas d'objection sur l'effort de l'Australie à minimiser la consommation de cigarettes, mais une enquête nationale du gouvernement australien a montré qu'un emballage des cigarettes pleins ne contribue pas à l'accélération de la tendance à la baisse des taux de tabagisme en Australie qui dure depuis 22 ans. Iman est aussi inquiet que si le différend est gagné par l'Australie, alors la politique de l'Australie se propage à d'autres pays. Certains États vont maintenant publier des règles similaires à la formule. Les huiles végétales et les aliments emballés qui sont souvent associés à la maladie. Cependant, le député directeur général de la Chambre du commerce et de l'industrie d'Indonésie, Shinta Kamdani, qui était présent dans cette conférence de presse, a dit que la politique d'Australie nie l'activité de fabrication de grandes marques qui coûtent cher, alors que d'autres industries, telles que la conception et la publicité, seront également touchées. La conclusion provisoire qui sera publiée par l'OMC est confidentielle. Cela va être livré uniquement aux parties, aux différents. Dans la prochaine étape, l'Indonésie et l'Australie à la fois donnent une réponse avant que l'OMC publie la décision finale. C'était la mise au point d'aujourd'hui.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel et aujourd'hui nous vous introduisons le pont Ponelele à Palu, Sulawesi Central. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Il y a beaucoup de choses uniques offertes par la ville Palu, la capitale de Sulawesi Central. Comme la capitale provinciale, Palu devrait avoir une sensation différente des autres villes. Pour distinguer des autres villes, Palu a un pont qui était sa marque typique. Ce pont unique était inauguré par le président Susilo Bambang Yudhoyono le mai 2006, pas moins avec le pont Ampera à Palembang, Sumatera Sud et le pont Suramadu à Java Est. Ce pont a une couleur typique de jaune avec deux arcs. Ce pont utilise le système de l'arc avec la largeur de 2 x 3,5 mètres. Ce pont colore la baie Palu de sorte qu'il devient plus attrayant, surtout la nuit. Ce pont est la fierté des habitants de la ville Palu, Sulawesi Central, car il est le premier pont en arc en Indonésie et troisième dans le monde après le Japon et la France. Le pont est nommé du gouverneur qui à l'époque a conduit Sulawesi Central, Aminuddin Ponulele, appelé le pont Palu 4, car il est le quatrième pont qui traverse la rivière Palu. Certains évoquent même comme un pont McD parce que deux courbées comme le logo de McD. Il y a aussi un appel au pont jaune, pont Anark et aussi le pont Talisé parce que à côté de la plage Talisé qui étend jusqu'à Golf Donggala. Le pont Ponulele dépasse la baie Talisé et il se trouve au district Besusu. Ce pont relie Palu Est et Palu Ouest. Depuis inauguré par le président Susilo Bambang Yudhoyono, le pont est devenu une nouvelle zone de loisirs, en particulier au coucher du soleil. Le coucher du soleil est vu plus clairement et éblouissant du pont, surtout quand le soleil est jaune-orangé, a rebondi sur la surface du golfe Palu. À ce moment, l'eau de la baie Palu a été décolorée suivant les couleurs de l'énergie solaire qui ont commencé de perdre dans les montagnes Gawalise. Les visiteurs peuvent profiter de la vue sur un endroit vide de mesure 10 x 2 mètres de chaque côté du pont qui est utilisé par les visiteurs comme endroit pour profiter du panorama. Du nord du pont, les visiteurs peuvent profiter des montagnes qui entourent la baie Palu. De ce pont, les visiteurs peuvent également voir la beauté du golfe Palu qui a été envahi par des centaines de bateaux le long de 3 mètres et avec l'écran de 2 mètres de large. Le pont Ponu Lele relie également la rocade extérieure Palu Trans-Sulawesi. Avec la construction de ce pont, le véhicule qui veut traverser Palu n'a pas besoin d'entrer dans la ville, réduisant ainsi la densité de trafic dans la ville. Lorsque vous traversez le pont pendant la journée, vous sentez aussi la grandeur et la beauté de la construction de bâtiments d'architecture. Selon les données du ministère des Travaux publics, ce pont a une longueur de 560 mètres et une largeur de 9 mètres. Il est à une profondeur de 6 à 28 mètres. Ce pont unique est en termes de construction connu comme un modèle Steel-Tight Arch Type Nielsen. Ce type de pont est généralement construit pour la beauté comme un repère ou une icône de la ville. Le pont Ponu Lele présente également l'état de la ville Palu, une ville avec une topographie unique où les montagnes, les vallées et la mer forment cette ville. Si vous êtes dans la capitale de Sulawesi Central, le temps de profiter de la beauté de la baie Palu, du pont Ponu Lele. Chers amis, rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la rubrique L'Indonésie en couleurs. Les chaussons sont connus et utilisés par les gens autour du monde jusqu'à maintenant et une invention humaine qui a été créée depuis l'époque de l'Égypte ancienne. À son développement en Indonésie, de divers types et marques, aussi bien de matériel de base, des sandales, peuvent être trouvés. Dans l'Indonésie en couleur ce soir, nous allons vous introduire un caractère distinctif des sandales faites à la main à partir de Purwokerto, Java Central. Outre de l'existence du musée de Banque Rakyat Indonesia, la première banque nationale qui se tient en Indonésie, ainsi que la capitale de la région Banyumas Jawa Central, Purwokerto a de nombreux surnoms. À partir de la ville touristique, la ville des pousses, la ville de transit, la ville d'éducation, à la ville des retraités, parce que beaucoup de fonctionnaires qui prennent leur retraite sont enfin installés dans la ville. Maintenant, Purwokerto a une nouvelle icône qui a soulevé des économies locales, à savoir Sandal Bandol, soit les chaussons bandol. L'artisanat des chaussons bandol ont été libérés depuis les années 1950 dans la région Banaran Purwokerto. Les mots sandal bandol proviennent des mots sandal ban bodol ou les chaussons des vieux pneus dans la langue javanaise. Initialement, les pneus usagés qui étaient auparavant uniquement être en gaspillage commencent d'être créés des chaussons avec des moyens et formes simples. La sélection des pneus usagés comme matériau de base est parce que la durabilité des pneus utilisés sur le frottement contre les choses rudes et fortes est assez bonne. Au début de ces produits, de nombreux consommateurs se plaignent de semelles noires des pieds causées par l'érosion de la couleur noire du pneu due à l'eau ou la sueur. Au fil du temps, les artisans des chaussons bandol ont commencé à montrer sa créativité, y compris l'utilisation d'une éponge ou d'un caoutchouc synthétique pour leurs vêtements le rendant plus attrayant à regarder et également en mesure de réduire le contact direct entre le matériau de base du pneu avec le pied. Selon Daryanto, un artisan au village Keniten, c'était Matseh qui a commencé de traiter les pneus usagés d'être les chaussons aux années 1950. À ce moment-là, la région Banaran devenait fréquemment le transit des grands véhicules qui voulaient changer les pneus, si bien qu'il y ait beaucoup de tas de vieux pneus. Une telle situation a inspiré Matseh à traiter les pneus usagés d'être quelque chose d'utile. De simple, les chaussons bandol deviennent maintenant ceux avec la qualité similaire à l'usine. La conception est également fleuriste avec des styles branchés en conformité avec le développement de la mode. Maintenant, on commence à produire aussi les chaussures en pneus usagés. En outre, le nombre d'artisans des chaussons bandol à Banyumas et proliféré dans certaines régions, non seulement à Banaran. Maintenant, les déchets qui sont gaspillés sans prix ont été transformés en produits de valeur économique et respectueux de l'environnement. Le résultat de la créativité des mains participe également à soutenir la vie des artisans des chaussons bandol à Banyumas, Jawa Central. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie en pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour, c'est Semi de la Voix d'Indonésie dans le monde entier avec Yubi Suryanto, le magazine de Pelanginada ou magazine de musique. Ce magazine qui présente la musique traditionnelle indonésienne et moderne. Pour cette édition, on va présenter un groupe de bandes, Samson. Semi, pour commencer notre soirée, on va vous présenter une chanson de Samson intitulée Kenangan Terindah.
adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak.
Ses amis, Kenangan Terindah, c'était une chanson créée par Samson, un groupe de l'Indonésie à la genre du pop rock. Ce groupe a été fondé le 14 juillet 2003 avec le nom de Equal. Cependant, afin d'avoir pour enregistrer, la chanteuse et le batteur ont décidé de le quitter. Ensuite, on a changé de devenir le nom de Samson. Le premier album avait succès du public. Le deuxième album, Menunggu, a été lancé le 25 mai 2007. Cet album a été produit aux trois continents, en Asie, en Indonésie, en Australie et aux États-Unis, avec un mois d'enregistrement. Samson a aussi fait une collaboration avec l'orchestre de Sydney Philharmonic. Avant de commencer, écoutons la chanson Akhir Rasa Ini. Ses amis, ce band de Samsung se compose de Bambang Rigunahil, chanteur, Eric Partogisiagian, guitariste, Irfan Aulia, guitariste, Chandra Kristanto, batteur, Aldri Dataviadi, bassiste. Ce groupe a également fait une fois collaborer avec Erwin Gutawa, le compositeur célèbre indonésien. Samson a fait la tournée de vidéo For You au 8 août 2007. Le président Susilo Bambang Yudhoyono à ce moment-là est apparu dans cette séquence vidéo. Cette chanson est dédiée pour les soldats indonésiens qui sont rendus au Liban en tant que membres de la force de la paix de l'ONU. Après, Samson a sorti un album intitulé Loulou ou Fondu sous la forme de clip vidéo et MP3. Ce clip de vidéo raconte une femme qui perd son petit ami qui a eu des brûlures d'accident de moto. Ses amis, malheureusement, on n'a pas plus de temps, donc on va terminer notre compte de magazine de musique. Écoutez donc deux dernières chansons intitulées Naluri Lelaki et Dengan Nafasmu. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.
Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Aku adalah lelaki yang selalu gundah menunggu wanita.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id. Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écoutez l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.